France Culture.
La science CQFD, Antoine Beauchamp.
Comme tous les premiers lundis du mois dans la science CQFD, on ouvre les pages des revues scientifiques et on vous propose une sélection de l'actualité de la recherche au clair de la une. Le monde bat aujourd'hui au rythme de l'intelligence artificielle. Ce dont on parle moins, c'est de la consommation d'électricité liée à ces outils. Sommes-nous à la veille d'une crise énergétique causée par l'IA ? D'énergie, il sera également question dans ces travaux d'Hercule réalisés par les espèces animales architectes qui modifient au prix d'une énergie colossale leurs écosystèmes. On retournera aussi à la préhistoire, à la poursuite d'un nouveau Graal, l'ADN sédimentaire qui nous en apprend plus sur les occupants de certaines grottes. Et enfin, on gravira l'Everest où la découverte d'un pied humain en 2024 nous a ramené à la première ascension tragique du sommet. Bonjour Mathilde Fontaise.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique, rédactrice en chef du magazine Epsilon. Bonjour Marie Trébert.
Bonjour.
Vous êtes vulgarisatrice scientifique, naturaliste et vidéaste. On peut retrouver vos vidéos sur YouTube, sur la chaîne La Boîte à Curiosité. Et enfin, on a deux petits nouveaux dans cette table ronde actu. Bonjour Mathieu Novak.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes journaliste scientifique, rédacteur en chef du mensuel Science et Avenir, notre magazine partenaire. Et Pedro Lima, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique spécialiste de la préhistoire, auteur récemment du livre Paléo Kids, l'enfance de l'humanité aux éditions Synops. Bienvenue à tous les quatre et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez comme chaque jour retrouver tous les liens vers les articles dont on va parler sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky @ScienceCQFD. On commence sans plus attendre avec notre premier gros sujet du jour, avec vous Mathilde Fontaise. Difficile en ce moment d'échapper aux IA génératives ou aux agents conversationnels type chat GPT. Une chose qu'on ne dit pas assez, c'est que du point de vue de la consommation d'énergie, ces outils sont des ogres et que la frugalité de ces systèmes ne semble pas être sur le point d'advenir tout de suite. C'est ce que vous nous montrez ce mois-ci dans le magazine Epsilon. Alors déjà, la première question, c'est qu'est-ce qui rend ces systèmes aussi énergivores ?
C'est toutes ces lignes de code qui constituent des réseaux de neurones, hein, ces paramètres. Donc c'est 1000 milliards de paramètres en ordre de grandeur pour les plus grosses IA génératives. D'ailleurs, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'elles sont pas du tout en train de réduire leur taille. Hein. La dernière arrivée Grok d'Elon Musk, je crois que c'est 2700 milliards de paramètres. Donc on est toujours dans une dynamique de surenchère, de force brute pour pouvoir amener ces IA à, on va dire, réfléchir, calculer le mieux possible et répondre à nos questions, qu'elles soient totalement débiles ou qu'elles soient très très pertinentes. Donc ce qu'on a vu, c'est que on a une sorte de prise de conscience en ce moment dans le milieu, à la fois du côté des fabricants informatiques, des grosses entreprises, etc., et à la fois du côté des, on va dire, des gouvernements ou qui encadrent et qui sont en train de gérer les infrastructures. Cette prise de conscience de l'énorme gourmandise des IA en général. Donc d'une part avec les chiffres actuels où on voit qu'on a une grosse consommation de plus en plus grosse qui est prise en électricité, qui est prise par les data centers. 23% je crois de l'énergie de l'État de Virginie par exemple aux États-Unis, ce sont les data centers. En Irlande c'est 20%. Donc ce sont des endroits où il y a beaucoup de data centers, mais ça commence à créer des tensions. On le voit dans certains pays avec des levées de boucliers pour l'installation de nouveaux data centers. Même en France, on a vu aussi au niveau de Marseille. Donc on a tout ce mouvement-là, et puis on a des prévisions qui commencent à arriver, qui sont assez hallucinantes, hein, qui nous donnent des chiffres du style 4% de l'électricité mondiale en 2026, qui serait juste la consommation de l'IA, 19% de l'énergie des data centers qui serait consacré à l'IA cette même année en 2026, ça pourrait par exemple représenter 10% de l'électricité américaine à l'avenir. Et j'ajoute un dernier point qui nous a stimulé aussi pour plonger dans cette enquête, c'est qu'en fait, toutes ces évaluations, elles sont encore très préliminaires, puisque l'une des grandes difficultés, c'est qu'on a du mal à évaluer la consommation de ces IA.
Que disent justement et ne disent pas les GAFAM, ou en tout cas les principaux producteurs et consommateurs de ces outils d'intelligence artificielle sur le coût énergétique de ces IA.
C'est ça, le coût énergétique, on peut le déduire à partir de, on va dire, certains paramètres extérieurs, ne serait-ce que la construction ou les investissements dans les data centers, qui nous donnent une idée, évidemment, de la plupart des nouveaux data centers sont construits pour pour donner ces nouvelles capacités énergétiques qui sont liées à l'IA. Donc on fait des déductions comme ça, mais on n'a pas de décompte véritablement de l'énergie qui est captée directement par l'IA, et on peut difficilement se projeter. Et c'est tout l'enjeu qui a été abordé récemment par l'Agence internationale de l'énergie, qui compte lancer un observatoire en avril qui va mesurer l'empreinte écologique de l'IA en général, mais donc en particulier l'électricité dont elle va avoir besoin à l'avenir. Et il y a tout un tas d'outils aussi qui sont en train d'être développés, justement, comme des labels, des certifications, pour essayer de pousser après les fabricants à plus de transparence et à pouvoir mettre en valeur, on va dire, une certaine économie dans le calcul de ces ogres que sont les IA.
Je parlais à l'instant du fait que les GAFAM communiquaient sans communiquer sur la consommation directement liée à ces outils d'intelligence artificielle, à ces systèmes d'intelligence artificielle. Google a annoncé une hausse de 48% de ses émissions de CO2 en 5 ans, ce qui est quand même pas rien. Microsoft, de son côté, une hausse de 29% en 3 ans. Donc si on reporte à 5 ans, ce serait pas très loin des chiffres de Google. Qu'est-ce qui fait que... On a souvent parlé dans cette émission, par exemple, de la consommation des data centers qui stockent nos données. Qu'est-ce qui fait que l'intelligence artificielle en particulier soit encore plus consommatrice d'énergie encore plus consommatrice de cette énergie pompée dans ces data centers-là?
Alors c'est en particulier, c'est pas que l'IA. Par exemple, l'IA de reconnaissance d'image ne va pas dépenser énormément d'énergie. C'est vraiment les modèles d'IA générative qui sont basés, donc d'une part au moment de leur entraînement, sur énormément de paramètres et de données, et après derrière en fonctionnement sur énormément de paramètres et de données. C'est ce que je disais au départ. On peut avoir une tendance parfois un peu locale, et ça commence à venir, à essayer de simplifier un peu ces réseaux de neurones pour les rendre disons plus spécifiques et donc par là plus économes en énergie. Mais pour l'instant, ces modèles de neurones sont, on va dire, le rêve c'est le généraliste, quoi. C'est celui qui va pouvoir être performant sur tout type de données, et c'est ça qui donne lieu à une sorte de dépense d'énergie qui va pas forcément être dimensionnée par rapport à la demande qu'on lui fait. Donc on va lui demander de fournir une image. On a regardé, les ordres de grandeur, c'est assez hallucinant, il faut se rendre compte, donc c'est pour juste répondre à une question. Si on demande à l'IA, donc une IA générative, de répondre à une question, c'est trois fois plus d'énergie qu'une recherche classique internet, c'est 400 fois plus pour rédiger une légende photo, et c'est 1500 fois plus pour générer une image. Donc pour générer une image, par exemple, c'est l'équivalent de la moitié de l'énergie qui est stockée dans votre batterie de téléphone portable. Une seule image. Donc déjà, je pense qu'il y a un message à passer, dont on est tous en train un petit peu de se familiariser avec ça, nous les utilisateurs de l'IA. Quand on lui demande simplement de nous répondre à des questions bêtes, on commence à avoir ce surmoi qui nous dit « bon, peut-être que je suis en train de dépenser de l'énergie pour rien ». Mais c'est vrai qu'il y a aussi, techniquement, sans doute un travail à mener du côté des entreprises qui contrôlent ces IA pour essayer de les simplifier et de les rendre plus spécifiques. Pas besoin d'utiliser l'IA générative totale pour certains types de recherches ou d'optimisation de process ou de, disons, pour certaines applications.
Et c'est un comme peu si la vie. On conduisait un Boeing 737 mais avec un permis de conduire qui nous donnait finalement accès à une mobilette, quoi.
C'est en ça. Gros, c'est... Et c'est sans doute ce qui est en train de commencer, par exemple, avec l'IA DeepSeek, l'IA chinoise, donc, qui est arrivée avec grand bruit sur le marché américain en mois de janvier, et qui, elle, pour le coup, serait, puisqu'on a pareil, on n'a pas énormément de détails, mais serait beaucoup plus économe en énergie que ne le sont les IA.
Parce que justement,
sans doute parce qu'il y a eu une sorte de recherche de compromis entre la précision de la réponse et l'efficacité du calcul, qui fait qu'on a pu, comme ça, un peu réussir à juguler. Et il y a d'autres travaux qui sont menés pour essayer, comme ça, de réduire un peu l'empreinte énergétique de l'IA. On essaye, par exemple, de supprimer des couches de neurones pour essayer de transférer en fait une partie du raisonnement d'une très très grosse IA dans une plus petite qui, elle, après, derrière, va pouvoir tourner sans faire appel à la grande base de données. Donc c'est essayer de fonctionner comme ça par petites unités déportées. Mais c'est vrai que c'est que le début pour l'instant de ce type de
mouvement. Parce que là, vous projetez dans ce monde où finalement on limite la consommation de ces outils et de ces systèmes d'intelligence artificielle générative, il y a malgré tout une nécessité de d'aller à l'urgence et à pour ces grandes entreprises et à finalement penser déjà à alimenter ces centres de données qui vont arriver. Qui, alors là, on parle de rouvrir des centrales à gaz, des centrales à charbon, d'aller se fournir directement à la source de mini centrales nucléaires.
C'est la crainte. Hein. C'est pour l'instant les géants de l'informatique ou les vont plutôt communiquer sur le fait qu'ils vont avoir investi dans de l'énergie solaire et éolienne pour justement éviter de passer par la réouverture de centrales à charbon ou à gaz. Mais le problème, c'est que les infrastructures ne suivent pas du tout le rythme de l'expansion de l'IA. Par exemple, je crois que c'est 7 ans, entre 3 et 7 ans en France pour tirer une ligne à haute tension. Donc, si on veut avoir les infrastructures qui vont être à la hauteur de notre utilisation massive de ces IA génératives, il faut déployer, on va dire, changer complètement d'échelle en termes d'alimentation électrique. Et donc, c'est ça qui pose problème. C'est plutôt le moment où on est dans une sorte de goulot d'étranglement là, avec une très très forte demande de ces IA et des infrastructures qui vont pas être prêtes. Et c'est comme ça que Microsoft vient de signer là il y a quelques mois la réouverture de Three Mile Island prochainement, qui avait été fermée pour cause d'absence de rentabilité. Et tout à coup, ça redevient rentable d'avoir cette centrale nucléaire. Il y a des investissements aussi qui sont faits dans le nucléaire modulaire. Vous savez, ces mini réacteurs. L'IA cherche va déclencher comme ça des investissements dans l'énergie qui sont liés et déclenchés par ces acteurs du numérique et qui de toute façon eux-mêmes dépendent de la capacité du réseau à leur fournir l'énergie dont ils ont besoin. Donc c'est vraiment une accélération d'un mouvement, mais qui va pas pouvoir aller comme ça à ce rythme-là sans se fracasser. D'où le fait de même pour les acteurs du numérique de réfléchir à des solutions pour contourner ce mur, puisque en fait on juste comme ça là avec en gros notre capacité à construire des data centers, construire des centrales, tirer des fils, on n'arrivera pas à soutenir ce niveau d'investissement, on va dire, électrique.
Mathieu Novak.
Oui, ce que je trouve très intéressant, c'est la difficulté dont parlait Mathilde, d'avoir ces chiffres. En fait, il y a beaucoup de chiffres. Alors, Mathilde a cité les trois fois plus une requête d'IA pour du texte, hein, par rapport à un moteur de recherche. Alors, on a vu passer des chiffres de 7 fois, de 10 fois. Et il y en a d'autres à côté, il y avait Epoch AI, qui est une boîte qui a dit non, c'est pareil, c'est kiff. Après, on a vu que c'est une boîte qui est financée, enfin, soutenue, partenaire avec OpenAI. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des biais? Je ne sais pas. En tout cas, c'est entre la même chose et 10. Mais si ça remplace Google, finalement, c'est la même chose. Si c'est 10, c'est 10 fois plus. On s'est jamais posé la question de savoir est-ce que quand on allait sur Google, on allait prendre des quantités d'énergie fabuleuses. Moi, ce que je trouve très intéressant dans ces chiffres qui sont déjà extrêmement difficiles à sortir, c'est qu'ils nous interrogent eux-mêmes sur notre rapport à la consommation d'énergie. Pour donner un exemple, pour avoir des ordres de grandeur, une recherche sur Google, c'est 0,3 watt-heure. Donc si on la multiplie par 3 pour prendre le chiffre de Mathilde, on arrive à 1 watt-heure. Faire bouillir sa bouilloire pour faire un thé, c'est 100 watt-heure. Une heure de télé, c'est 100 watt-heure. Donc c'est 100 requêtes. On s'est jamais posé la question, est-ce que je vais faire un thé ou pas, ou est-ce que je vais regarder une heure de télé ou pas, parce que ça consomme de l'énergie. Et en fait, ce qui se passe avec l'IA est tellement énorme que ça nous oblige à nous poser des questions de notre relation par rapport à l'énergie qu'on ne se posait pas avant. Et j'espère que ça va dépasser le cadre
de l'IA. Finalement, voilà, c'est ce rapport-là, on l'a avec toutes les technologies. Et ce qui est intéressant, c'est que ces géants, justement, qui produisent des outils d'intelligence artificielle, disent oui, mais à un moment, on va atteindre un niveau d'efficacité tel que, voilà, on ne surconsommera pas. Mais en fait, tout nous prouve avec la technologie que, de toute façon, quand on a la possibilité de consommer, on consomme et on surconsomme.
Alors, je ne crois pas qu'il y en ait aucun qui dise qu'on ne consommera pas d'énergie. Par contre, il y a une direction qui est prise techniquement et qui est intéressante et qui rentre tout à fait dans ce débat, qui est celle de se relancer un peu sur cette idée de l'ordinateur ou du calcul neuromorphique. Alors neuromorphique, pourquoi ? Pour utiliser en fait, on va dire notre cerveau à nous comme modèle. On rappelle que notre cerveau c'est 20 watts, hein, et puis ça c'est complètement écolo, ça fonctionne avec des légumes bio, et à la fin on produit du calcul. Eh bien l'idée c'est ça, c'est d'essayer de reproduire plus finement. En fait, déjà les réseaux de neurones, il y avait cette idée. Hein, on parle de neurones. Il y avait cette idée un petit peu de singer quand même l'intelligence humaine. Le neuromorphique c'est un stade plus loin, c'est une direction qui est évoquée depuis longtemps et qui commence. Là il y a des puces qui sont en train d'être fabriquées, alors pas pour les grosses centrales de calcul, mais plutôt pour le terminal final qui est votre téléphone. Il y a des puces qui commencent à fonctionner sur ce modèle neuromorphique, et cette direction-là, elle est prise justement pour essayer de se rapprocher le plus possible, on va dire, d'une efficacité maximale.
Oui, parce que ce qui consomme pas mal d'énergie, c'est la dissociation entre le processeur et les unités de mémoire, et ce
aller-retour
entre les deux, quoi.
Et cet aller-retour permanent.
Donc là, l'idée, c'est de fusionner processeur et mémoire pour justement...
Et de singer un peu aussi notre capacité à focaliser notre attention et donc notre calcul cérébral sur des événements seulement localisés et pas... En fait, l'IA, c'est une sorte de tour de contrôle général qui va tout surveiller avec le même niveau d'attention et qui va donc dépenser du calcul pour tous les niveaux en même temps, même si il y a que par exemple vous qui m'intéressez en face de moi dans le studio, mais l'IA va quand même calculer quel est le vent derrière, est-ce qu'il y a du soleil, etc. Et notre cerveau, lui, ne fait pas ça, il va évacuer et se focaliser sur ce qui l'intéresse. Et l'idée avec ces puces et avec toutes les nouvelles architectures de puces qui sont en train, enfin de puces et de soft, hein, derrière, on parle pas seulement de matériel, mais on parle aussi des logiciels, c'est d'essayer de spécialiser, de focaliser l'attention de calcul de ces intelligences artificielles pour les rendre plus efficaces.
Bah écoutez, on va voir si avec le projet Stargate lancé par Donald Trump, ce genre d'évolution est favorable.
Bon. Il y a 20 data centers dans le projet.
20 gigadata centers.
Donc on commence par du calcul.
Voilà. Et on entend Google et Microsoft parler de, enfin, miser sur la survenue de la fusion nucléaire pour alimenter toutes ces pompes en énergie. Donc on se dit que, bon, comme on dit vulgairement, on n'a pas forcément le cul tiré des ronces. Merci beaucoup Mathilde Fontaise. Cette enquête intitulée « IA, le mur de l'énergie » par Muriel Valin et Vincent Nouériga est à retrouver dans les pages du magazine Epsilon ce mois-ci. Une petite annonce peut-être à faire autour d'un crowdfunding que vous lancez pour...
Oui. On a le plaisir de revenir sur Ulule où on est né, il y a presque 4 ans maintenant, et on relance un financement participatif pour financer notre 3e voyage. On est parti dans la Lune, on est parti dans la forêt, et cette fois on va partir dans les abysses avec un 200 pages, un MOOC, donc à mi-chemin entre un magazine et un livre, qui sortira donc en vrai dans les kiosques fin mai, mais qu'on propose de découvrir et à la prévente sur Ulule. Dès maintenant, on peut s'inscrire et rentrer son adresse, et sinon le lancement de la campagne, vraiment, c'est ce lundi 10 à 9h sur Ulule.
On partagera tout ça sur la page de l'émission et sur notre compte Blue Sky. On poursuit dans un instant notre tour d'horizon de l'actualité scientifique et on va continuer à parler d'énergie, mais une énergie un petit peu plus bio.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trier.
Et Natacha est en vacances et on l'embrasse bien fort. Elle sera de retour la semaine prochaine. On poursuit ce tour d'horizon de l'actualité scientifique avec vous, Marie Trébert. On reste dans un sujet lié à l'énergie, mais cette fois, il s'agit de l'énergie déployée par des animaux ingénieurs, des animaux qui bâtissent et qui aménagent leurs écosystèmes. Quel est le point de départ de cette étude qui a retenu votre attention dans la revue PNAS et qui est parue le 18 février 2025?
Oui, bah en effet, cette étude qui est sortie le 18 février dernier nous apprend que effectivement les animaux ne sont pas seulement des habitants du monde naturel, ils en sont les architectes. Et les chercheurs et chercheuses se sont intéressés aussi à quantifier l'énergie que toutes ces petites bêtes déplaçaient dans le monde entier. Car vivre, c'est se mouvoir, creuser, gratter, migrer, nager. Et donc une énergie dépensée qui déplace des quantités de matières incroyables, parfois même visibles de l'espace, comme on le voit avec les célèbres termitières, s'élevant majestueusement comme des bâtiments vivants. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec cet article, c'est que les chercheurs se sont dit « Ok, on va reprendre tout un tas d'articles qui sont parus les 20 dernières années sur des espèces, les castors par-ci. »
Une méta-analyse, comme on dit.
Voilà, exactement. Et on va essayer de rendre ça de manière globale pour essayer ensuite de quantifier toute l'énergie. Donc, ils ont étudié 513 études qui ciblaient les écosystèmes terrestres et aquatiques d'eau douce. Et ils ont extrait un panel d'espèces terrestres et aquatiques ingénieurs allant du petit ver au mieux les sols, aux grands hippopotames créant des ruisseaux après leur passage. Et ils ont commencé par classer donc, ces espèces, les différents taxons, et ils ont classé des processus qu'ils ont qualifiés d'effets zoogéomorphes, que les chercheurs classent ensuite en 3 grandes catégories dans l'étude. Donc on a la bioturbation, qui sont des effets liés au mélange des sols et au retournement de la terre. On a la bioconstruction, donc on parlait des termites, liés à la construction de monticules ou de nids, et la bioérosion, liée au processus d'érosion des sols, comme creuser des terriers.
Est-ce qu'on peut parler, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'espèces architectes? Moi, il y a un oiseau dont j'ai retenu le nom, le républicain social, qui m'a beaucoup plu. Il porte assez bien son nom. Alors, il fait quoi, ce républicain social? Alors, je crois que c'est une espèce d'oiseau en Afrique du Sud qui construit des espèces d'HLM pour oiseaux. C'est un bâtisseur collectif. Vous parliez aussi des termites. On pense évidemment aux castors. Mmh. Parlez-nous un petit peu de ces exemples qui sont justement mis à l'honneur dans cette
partie. C'est vrai qu'on pense souvent aux écosystèmes terrestres. Et là, par exemple, il y a un exemple qui est assez frappant dans l'étude, c'est la grande migration des saumons et les périodes de frais. En fait, on se rend compte que cette grande migration, elle va déplacer des quantités de sédiments énormes, mais pas que. En fait, ça va carrément changer, modifier l'emplacement des rivières, leur composition, même déplacer le flux d'oxygène, la distribution des nutriments des rivières. Donc en fait, ces migrations, elles ont quand même des impacts très très significatifs sur ces écosystèmes aquatiques.
Ce qui est intéressant aussi, là vous parlez des écosystèmes aquatiques, c'est que les écosystèmes d'eau douce ne sont pas majoritaire sur la planète Terre. Il représente 2,4% de la surface terrestre et pourtant, le tiers des espèces architectes recensées dans cette étude appartiennent à ces écosystèmes d'eau douce. Alors parlez-nous de certaines de ces espèces justement d'écosystèmes d'eau douce. On pense bien sûr aux castors.
Oui, bien sûr, les castors qui du coup créent des barrages qui vont réguler les flux des rivières. Il y a eu plein de choses qui ont été étudiées et démontrées sur l'impact positif des castors qui recréent des zones humides, qui font des barrages contre les mégafeux. Il y a eu dans les années 50, je crois, aux États-Unis des castors qui ont été parachutés en avion pour être réintroduits. En France, il y a eu de la réintroduction aussi. Donc cette étude, elle met en avant ce côté très important de ces espèces ingénieures de la nature qui, en fait, sont importantes pour les équilibres des sols, des eaux douces, etc.
Et cette étude, elle s'intéresse aussi à l'énergie déployée par ces espèces. Alors, pourquoi s'intéresser à ce côté énergétique et la production, l'énergie nécessaire à cette construction d'écosystèmes par ces espèces architectes?
Les chercheurs se sont demandé effectivement comment on pourrait comparer ça à des choses comme des inondations, combien de matière est déplacée en fait annuellement par tous ces animaux. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont calculé la biomasse, donc c'est la masse de tous les animaux qu'ils avaient identifiés comme étant des espèces ingénieurs, pour tenter ensuite de quantifier la dépense énergétique calorique de ces animaux. Ils ont additionné le tout et ils ont réalisé une estimation qui est assez époustouflante de la puissance émise par ce vivant. Et donc on apprend que chaque année, les animaux sauvages dépensent pas moins de 60 000 gigajoules pour façonner la planète. 76 000 gigajoules, c'est la quantité d'énergie émise par plus d'un demi-million d'inondations fluviales majeures qui balayent d'immenses quantités de roches et de sédiments tous les ans. Donc on imagine la quantité colossale d'énergie que ça représente. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette étude, il y a quand même plusieurs espèces domestiques terrestres qui ont été, il y a eu des chèvres, des yaks, des moutons, etc. Et ils se sont rendus compte que du coup, en calculant à part l'étude, elle estime que la puissance de ces animaux domestiques, elle est environ 450 fois supérieure aux animaux sauvages, soit l'équivalent de 34,5 millions de gigajoules par an, pour comparer le sauvage et le domestique.
Du coup, Mathilde Fontaise, on met les castors au boulot pour
ça régler
nos problèmes d'énergie. Ouais, c'est une solution viable, quoi.
Non, mais j'avais lu qu'ils pouvaient même purifier les eaux autour de leur barrage, les castors. C'est complètement fascinant la manière qu'ils ont de modeler leur paysage. Et ce qui est marrant, c'est de se rendre compte qu'on est loin d'avoir une... Enfin, c'est qu'on a une crise des écosystèmes, une crise animale. Et on avait l'impression d'avoir une crise des paysages. Et en fait, finalement, c'est les deux sont co-construction. Et c'est d'un point de vue de cette étude-là, on l'avait repéré aussi. Et c'est son côté, justement, global. Oui. Et cette quantification globale de l'impact des espèces et du coup de leur évolution au fur et à mesure que le climat change et que l'emprise de l'homme s'éteint.
C'est intéressant de voir, finalement, l'évolution de ce rapport à certaines espèces comme le castor, qui ont été complètement décimées pour leur fourrure, notamment, et puis qui sont aujourd'hui réintroduites. Là, je crois que le gouvernement britannique a donné vendredi dernier son feu vert pour réintroduire des castors. Les castors, ça nous fascine tellement que nous, on en fera une émission le 18 mars prochain. Soyez à l'écoute. Marie, je vous prends la parole. Donc du coup, quelles sont les perspectives ouvertes par cette étude, notamment pour ces questions de conservation de la biodiversité et ces questions aussi cruciales de restauration des écosystèmes?
Je voudrais juste compléter un petit point, parce que on pense instinctivement à beaucoup d'espèces qu'on qualifie de charismatiques, donc les castors, les saumons aussi, etc., les mammifères de manière globale. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est que la diversité d'espèces ingénieures, elle se elle s'arrête pas juste à ces espèces-là. On apprend qu'il y a des vers qui sont tout petits, on apprend qu'il y a des gastéropodes, il y a des mollusques, il y a des poissons, des amphibiens, des oiseaux, des reptiles qui en fait ont des impacts tout autant significatifs. Et c'est ça que je trouve aussi assez joli dans cette étude.
Dans cette étude, il parle d'une larve, une larve de frigane qui produit de la soie, donc c'est dans l'eau, et les filaments de cette larve lient les sédiments entre eux et ralentissent l'érosion des rivières. Donc la soie de petite larve ralentit l'érosion des rivières, c'est magnifique.
Ce que dit Marie est très juste, c'est qu'il y a un mouvement comme ça qui commence à remonter chez les scientifiques. Il faut sauver les animaux moches, ceux dont on ne parle pas. Il y a un biais chez les lecteurs, il y a un biais de curiosité, mais qui existe aussi chez les chercheurs eux-mêmes, et ils en conviennent, quoi. Pour décrocher un financement, pour intéresser les gens, on parle d'animaux dont on connaît les bienfaits. Et la biodiversité, c'est un tout. Vous changez un paramètre, ça fout tout en l'air. Voilà, et quand on parle d'effondrement de la biodiversité, c'est parce qu'on prend tout, à chaque fois un paramètre. Et il faut s'adresser à l'ensemble des acteurs de la biodiversité pour la comprendre.
Et Marie, c'est d'autant plus intéressant que ce que j'ai beaucoup aimé dans cette étude, c'est que c'est une étude qui assume 100% ses biais. En disant, nous, on tente de faire cette étude et d'en faire quelque chose de global et de mondial. Mais en fait, à disposition, on avait une grande majorité d'études qui se focalisaient que sur des espèces charismatiques ou que sur des espèces qui sont dans les hémisphères nord. Mm-hmm. Parce qu'en fait, la recherche se focalise naturellement là-dessus. Et j'ai aimé cette prise de position. Bah, c'est biaisé. Aujourd'hui, il faut ouvrir les horizons sur toutes ces espèces pour avoir encore plus d'infos et ensuite pouvoir protéger aussi tout ce vivant derrière. Parce que l'étude, quand même, nous alerte sur le fait que 30% des espèces dont elle parle sont aujourd'hui soit identifiées comme rares, endémiques ou menacées. Et que donc, c'est coton.
Voilà, c'est hyper important aussi de connaître ces espèces bâtisseuses et architectes avant qu'elles ne disparaissent. Alors, est-ce qu'on a une idée justement de la proportion, si on doit faire une espèce de schéma du monde vivant, de proportion d'espèces qui sont des espèces bâtisseuses, qui ont un impact concret, direct sur la structure, la géomorphologie de leurs écosystèmes?
Les insectes, beaucoup, les fourmilières, je crois qu'il y a des études qui montrent que les forêts sont pas du tout structurées de la même façon en fonction de la position des fourmilières, que les arbres poussent pas de la même façon, que les animaux plus grands s'organisent pas de la même façon. Donc même les toutes petites fourmis ont des impacts.
Les termites aussi, en creusant ces galeries, donnent un accès particulier à l'eau, et donc du coup la végétation n'est pas la même là où il y a des termites.
Ça va réguler la température des sols aussi. On nous apprend aussi qu'il y a une petite tortue qui s'appelle la tortue de Gopher qui, elle, va creuser des tunnels et ensuite va ouvrir la voie à plein d'autres animaux qui vont prendre le relais pour faire d'autres galeries, etc. Donc c'est vraiment un vivant qui s'imbrique et qu'il faut protéger du coup derrière.
Mathilde Fontes, une réaction à cette étude de PNAS et à ces espèces architectes qui déploient beaucoup d'énergie pour habiter leurs écosystèmes?
C'est ce qu'on disait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'avoir cette vision globale de la coévolution d'une planète et de ses habitants, du plus petit et moche au plus gros et visible. Et ça m'évoque aussi même des recherches qui étaient menées en planétologie, quoi, carrément, et qui visent à étudier comme ça, in silico bien sûr, par ordinateur en théorie, des planètes avec des micro-organismes, et comment est-ce que les micro-organismes vont pouvoir réussir à ou pas réguler un climat planétaire, favoriser l'émergence d'un climat qui mettrait de l'eau liquide en surface et qui ferait qu'après la vie pourrait se développer, etc. Et ces modèles-là m'avaient déjà fascinée, où on voit on met des petits microbes dans un sol martien et puis on fait tourner les modèles et puis on s'aperçoit qu'en fait dans très peu de cas ça marche, puis des fois ça marche pas, et ça ne marche que si il y a comme ça cette co-construction de la planète, on va dire de l'environnement planétaire, avec la vie qui est dessus. Et c'est une coévolution, la vie est adaptée à la planète, etc. Et tout ça, on le voit donc là, avec de manière globale sur Terre. Et il y a aussi ces travaux qui le font sur toutes sortes de planètes, avec toutes sortes de paramètres, pour donner un peu à voir cette universalité.
Pedro Lima.
Et juste sur la réintroduction d'espèces qu'on a nous-mêmes, les Homo sapiens, par le passé quasiment éradiquées, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu quelque chose de l'ordre de la culpabilité qu'on essaie de réparer, et ça produit parfois des effets qui sont inattendus, pas toujours extrêmement positifs. Donc il faut toujours se demander un petit peu qu'est-ce qui se passe quand, de manière à nouveau artificielle finalement, à intenter, on réintroduit des espèces. Et puis sinon, sans verser dans trop de pessimisme, j'espère qu'on pourra admirer longtemps l'œuvre de tous ces animaux, parce qu'il me revient un chiffre en tête qui est celui de la biomasse que représente notre espèce Homo sapiens dans le règne des mammifères, Homo sapiens et toutes ces espèces inféodées, animaux domestiques et animaux d'élevage, qui est de plus de 90% de la biomasse de tous les mammifères sur la planète. Alors là, tu n'as pas parlé que de mammifères. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir ce chiffre en tête pour mesurer l'emprise de l'espèce humaine sur les biosystèmes aussi.
Merci beaucoup, en tout cas, Marie Trébert, d'être venue réensauvager nos esprits et nos environnements. Restez à l'écoute, puisque dans quelques instants, on va continuer notre tour de table et de ce menu très riche en actualités scientifiques. Il va notamment être question de la recherche d'ADN ancien dans des sédiments archéologiques et de l'énigme relancée autour de la première ascension de l'Everest. Ce sera juste après ça.
The air that breathes, the pig that makes the hell, the cloud that rains, the hurt that pains, the beaver builds the dam. The beaver builds the dam. The beaver builds the dam.
Builds the Dam par The Love Substitute dans la science CQFD sur France Culture. On continue notre tour de table à la découverte des actualités scientifiques qui ont été retenues par nos invités Mathilde Fontaise, Marie Trébert, Mathieu Novak et vous, Pedro Lima. Pedro, vous nous emmenez aujourd'hui du côté d'une grotte en Espagne. J'adore les grottes. La grotte d'El Mirón sur la commune de Ramales de la Victoria en Cantabrie. Que connaît-on de cette grotte et pourquoi l'étudie-t-on depuis quelques années déjà ?
Alors c'est une grotte qui est connue en fait depuis assez longtemps, le début du XXe siècle, et elle a été par contre étudiée d'un point de vue scientifique, donc par des archéologues, des préhistoriens et des préhistoriennes depuis environ une trentaine d'années, les années 1990. Et en 2010, ces archéologues y ont fait une découverte tout à fait extraordinaire, derrière une dalle en calcaire, au fond du vestibule d'entrée, du porche d'entrée de cette cavité, donc qui a servi aussi de lieu d'habitat à l'époque du Paléolithique supérieur, un squelette humain qui était situé sous cette dalle en calcaire et qui était recouvert d'ocre. Alors c'est pas exceptionnel de retrouver des sépultures humaines au Paléolithique supérieur, celle-ci remonte à environ 20 000 ans. Ce qui est plus rare, c'est de les retrouver dans des contextes de grottes, en particulier d'art pariétal, donc ça renvoie un petit peu à la grotte de Cussac, par exemple, en Dordogne. Et en fait, cette cavité, pendant donc une trentaine d'années de recherche, elle a été extrêmement bien documentée sur la base, comme cela se fait d'habitude dans les études archéologiques, de stratigraphie, c'est-à-dire qu'on est descendu de plus en plus profondément dans les couches, le plus profond étant le plus ancien, à la recherche de charbon de bois qui sont associés à des foyers, d'ossements aussi, d'ossements humains, comme ce squelette d'une dame qui a été surnommée la Dama Roja, la Dame Rouge, à cause de l'ocre qui la recouvrait, et des ossements également de faune associés. Et ça, c'était jusqu'au début des années 2020, c'est ainsi que l'on savait que cette cavité avait été occupé pendant très longtemps, entre moins 40 000 avant le présent. Vous savez que les archéologues ne parlent plus en années avant Jésus-Christ, hein, on parle d'années avant le présent, jusqu'à il y a environ 4 000 ans, donc c'est une très très longue durée d'occupation. Mais en fait, ce qui s'est passé beaucoup plus récemment, c'est que les paléogénomistes, cette fois-ci, non plus seulement les archéologues et les préhistoriens, ont appliqué adapté une nouvelle méthode. Enfin, on verra qu'elle n'est pas si récente que ça.
Ça a commencé quand, à peu près, les études comme ça, la recherche en tout cas d'ADN dans les sédiments? Alors là, on ne parle pas forcément de recherche d'ADN dans des ossements. On va vraiment passer au crible tout un sédiment pour y trouver de l'ADN.
Très rapide petit retour historique. Donc historiquement, comme je vous l'ai dit, on étudiait les fossiles. Depuis les années 1990, donc comme vous venez de le dire, les préhistoriens ont accès à une autre fenêtre un petit peu sur notre passé, qui est l'ADN fossile, celui qu'on a commencé à extraire. Et il y a un nom qu'il faut citer, Svante Paabo, qui a eu pour cela le prix Nobel de médecine et physiologie en 2022.
Co-découvreur de l'homme de Denisova notamment.
Tout à fait. Et donc en allant chercher des séquences d'ADN, en les amplifiant, en les séquençant dans des fossiles humains ou animaux, on avait ainsi accès à ces ADN anciens. Et ça a effectivement, comme vous le dites, permis de résoudre tout d'abord des mystères de la paléanthropologie, qui sont par exemple les relations entre notre espèce Homo sapiens, on parle de population ancienne, et les humains de Néandertal. On sait aujourd'hui qu'on a 4%, jusqu'à 4% d'ADN néandertalien dans nos génomes. Et ça, c'est la paléogénomique qui nous a permis de le montrer. L'homme de Denisova, aussi l'humain de Denisova, qui a été la première espèce humaine fossile identifiée uniquement grâce à l'ADN, puisque c'était de l'ADN issu d'une toute petite phalange de doigts qui ne permettait pas de savoir ce qu'il en était.
Et bien, voilà, grâce.
Et donc la nouvelle fenêtre, c'est cet ADN sédimentaire, comme vous le disiez. Et là, il s'agit de retrouver des traces d'ADN, donc des êtres vivants associés, humains ou animaux, dans ce qu'on appelle cet ADN qui s'appelait avant le dirt ADN, l'ADN sale, parce que il est issu initialement de cellules qui sont des cellules de mucus, de salive, d'urine ou autres qu'ont laissé les animaux humains, entre autres, dans les sites aujourd'hui devenus des sites archéologiques, qui se sont sédimentés et qu'aujourd'hui donc les paléogénéticiens sont capables d'aller chercher. Alors cette nouvelle voie, elle date un petit peu moins que la paléogénomique, donc sur les ossements fossiles. C'est à peu près le début des années 2010, mais pendant une décennie à peu près, il a fallu que les tenants de cette nouvelle piste de recherche prouvent finalement au reste de la communauté scientifique que les ADN, par exemple, qu'ils étaient capables de séquencer, parce qu'ils ont vite fait la preuve qu'on retrouvait de l'ADN dans des sédiments, n'avaient pas migré dans ces sédiments. Et il a fallu une étude de la fin des années 2000-2009 au Danemark, qui a permis finalement de calibrer la méthode, puisque les paléogénomistes ont extrait des ADN dans des couches dont on connaissait les espèces qu'elles avaient occupées à travers des ossements fossiles.
Il y avait des
référents
fossiles.
Ils ont pu dire, regardez, on a les ADN aux mêmes endroits que là où on a les fossiles. Donc là, ça a été un petit peu le top départ de cette méthode qui finalement est presque en train de dépasser en efficacité ce qu'a permis l'étude de l'ADN issu des ossements. Je vous donne juste un exemple. On a souvent dit que, et les paléogénomistes le disaient, la barrière du million d'années pour les ADN les plus anciens que l'on serait capable d'obtenir dans des vestiges préhistoriques était une barrière presque infranchissable. Concernant de l'ADN extrait d'ossements, on est allé jusqu'à 700 000 ans sur un os de cheval.
Ce qui est colossal.
Ce qui est déjà énorme. Pour de l'ADN humain, on est autour de 400 000 ans dans la grotte d'Atapuerca également en Espagne. En 2022, des ADN issus de sédiments, donc, ont en Antarctique donné des dates autour de 1 million d'années. Enfin, c'est qu'on les a retrouvés dans des carottes sédimentaires dans des strates datant de 1 million d'années. Là, on était en octobre 2022. Et en décembre 2022, une étude danoise a révélé l'existence d'ADN de nombreuses espèces végétales et animales d'une forêt primaire qui existait donc au nord du Groenland actuel il y a 2 millions d'années.
C'est intéressant que vous parliez de cette région-là parce que c'est quand même des conditions de conservation a priori assez uniques, assez spéciales. On n'aurait pas forcément les mêmes résultats dans des zones tropicales où là pour le coup l'ADN se dégrade quand même beaucoup plus.
Absolument. Un des bons critères de conservation de ces ADN très anciens concerne la température. Donc évidemment au plus on va être dans des milieux froids, au plus cet ADN va plutôt bien se conserver, mais on a quand même la surprise d'observer que souvent cet ADN, il est pas, évidemment, il se balade pas comme ça tout seul dans les sédiments. Et ce qui fait qu'on arrive à en retrouver aussi longtemps après la mort des animaux ou des humains qui vivaient à ces époques-là, c'est qu'il s'est souvent, il a été souvent absorbé, il est rentré à l'intérieur de la structure de minéraux qui constituent ces sédiments. Et ça nous renvoie aussi, par exemple, au fait que dans les ADN d'ossements fossiles, on trouve plus facilement des ADN mitochondriaux, donc issus de petites organelles qui sont dans les cellules, il y en a à peu près 2000 par cellule qui produisent de l'énergie, que de l'ADN nucléaire, celui de notre noyau. Et là, c'est aussi parce que cet ADN mitochondrial a tendance à se fixer, à être absorbé et donc à être finalement maintenu comme ça, protégé pendant beaucoup plus longtemps, ce qui fait qu'on le retrouve jusqu'à 2 millions d'années plus tard, ce qui est tout à fait fabuleux. 2 millions d'années, on est à des âges où évoluaient, par exemple, les derniers australopithèques en Afrique, et donc là, on est quasiment dans des films de science-fiction. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être imaginer aujourd'hui, grâce à ces techniques, non plus en allant chercher dans les fossiles, d'autant que quand on va prendre de l'ADN dans un fossile, on le détériore, on le détruit. Donc évidemment, les paléo-anthropologues ont souvent beaucoup d'hésitation avant de laisser faire ce type d'étude, mais là finalement on va chercher simplement dans du sable, et une étude de 2021 a montré que, y compris des sédiments qui ont été extraits il y a déjà 10, 15, 30 ans, des sites fossilifères auxquels ils correspondaient portent toujours, quand ils sont même conservés dans de simples sacs en plastique dans des laboratoires, l'information génétique des animaux qui ont vécu là il y a des millions d'années.
Mais alors Pedro Lima, pour revenir à la Dama Roja et à la grotte del Mirón, on l'a un peu oublié. Alors quel apport justement cette étude de l'ADN sédimentaire dans cette grotte del Mirón, qu'est-ce que ça nous a permis de comprendre sur cette Dame Rouge?
Alors sur la Dame Rouge, d'abord je vais vous parler des animaux parce que comme le disait Mathieu, il y a un autre biais ici en paléanthropologie, c'est qu'on s'intéresse énormément aux humains. Bon voilà, on est d'abord intéressé un peu par nous-mêmes, mais toute la faune qui entoure les humains de cette époque est aussi passionnante. Et c'est finalement presque les résultats les plus intéressants qu'a apporté cette étude. Sur 32 échantillons qui ont été extraits donc par les paléogénomistes de l'université de Vienne, de ce site d'El Milon, on y a retrouvé 31 taxons, donc espèces ou sous-espèces. Espèce ou sous-espèce. Ça veut dire que déjà, il y a une grande richesse dans le matériel génétique des animaux et des humains qui ont peuplé cette cavité. Et le plus impressionnant, c'est que la moitié de ces taxons n'étaient pas documentés sur ce site par des ossements fossiles. Ça montre vraiment la puissance de cette méthode qui nous permet de retrouver l'existence dans des sites d'animaux pour lesquels on n'a pas retrouvé de fossiles. Ce que ça nous permet aussi, c'est pas seulement d'avoir un élément de preuve sur l'absence ou la présence de certaines espèces, c'est aussi qu'on peut commencer, parce qu'on arrive à séquencer des brins d'ADN de plus en plus longs, donc à les comparer à des bases, et puis surtout de commencer à accéder à des informations d'ordre phylogénétique. C'est-à-dire qu'on peut établir des comparaisons entre des animaux taxons, sous-espèces qui ont été découverts par exemple dans cette grotte d'El Mirón et dans d'autres grottes. Alors on y a trouvé énormément d'animaux dans cette grotte, des hyènes, des lynx, faucons, pigeons, taupes, musaraignes. Vous voyez qu'il y a toute une faune comme ça du paléolithique qui émerge, et on a pu montrer grâce à cette étude que les hyènes et les panthères étaient encore présentes dans la péninsule ibérique il y a environ 20 000 ans, ce qui est une information. Alors concernant les humains, on y revient, c'est ça qui nous intéresse évidemment le plus. On en a aussi trouvé des brins, des fragments d'ADN correspondant à la présence humaine dans cette cavité. Ça vient confirmer ce que l'on savait déjà, parce qu'on avait déjà par exemple de l'outillage ou des foyers. Or, il n'y a que les humains qui produisent, jusqu'à preuve du contraire, la production de feu. Par contre, ce que ça nous a permis de faire, là aussi, c'est d'établir des comparaisons entre les populations qui vivaient en Cantabrie à cette époque-là et des populations d'autres régions d'Europe, montrer, par exemple, que vraisemblablement, ces gens étaient affiliés à des populations dites de Fournols, donc qui proviennent du sud-ouest. Et ce que ça nous dit, c'est que le sud-ouest de la France, et ça le confirme en fait, et le nord de la péninsule ibérique ont constitué des zones refuges pour les humains du paléolithique supérieur au moment du dernier maximum glaciaire, pendant lequel les conditions étaient les plus rudes pour nos ancêtres.
Eh bien écoutez, l'ADN sédimentaire, c'est un peu le nouveau graal alors du coup de la paléanthropologie, et pas que, et ça nous renvoie aussi à ces questions autour de l'ADN environnemental très très brûlantes, et on y avait consacré une émission. On va vous partager le lien sur Blue Sky à l'instant, et tout de suite, on termine notre tour d'horizon de l'actualité scientifique avec, on va quitter le plancher des vaches, et puis on va prendre un petit peu de hauteur, c'est juste après ça.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
Et Mathieu Novak, dans ce numéro de Science à venir du mois de février, il est question d'une ascension restée
de Mars.
Il est question d'une ascension restée légendaire, celle de l'Everest par George Mallory et Andrew Irvine en 1924. Présentez-nous ce duo et le mystère qui l'entourait.
Alors oui, c'est un duo assez surprenant. On va changer effectivement complètement d'univers par rapport à ce que nous racontait Pedro, parce que Pedro nous parlait de petits bouts d'ADN. Et là, nous, c'est à la faveur de la fonte des glaces, on a trouvé une grosse trace et une chaussure. Voilà, donc fin 2024, il y a une équipe du National Geographic qui va sur la face nord de l'Everest pour faire complètement autre chose. Ils veulent monter et descendre de l'autre côté à ski. Et ils voient une chaussure. Alors une chaussure de 1924, ça ressemble pas à une chaussure de 100 ans plus tard. Donc ils se sont dit, là, c'est quelque chose d'assez étonnant. Ils s'approchent de cette chaussure et ils la voient, donc chaussure à crampons. Et bon, désolé pour les détails, mais il y a un morceau de pied dedans. Et surtout, ce morceau de pied est entouré d'une chaussette. Et sur la chaussette, c'est comme quand on partait en colonie de vacances, cousu avec un joli petit fil rouge, le nom Irvine. Et donc là, j'en reviens pour répondre à votre question, c'est que Irvine avait disparu il y a 100 ans, en l'été 1924. Il était monté dans une grande expédition qui voulait être la première conquête de l'Everest, avec une équipe d'une douzaine de Britanniques, et ils ont été les derniers dans cette expédition, Irvine et Mallory, à faire la tentative, et ils ont disparu. Les deux ont disparu. On a retrouvé le corps de Mallory par hasard en 1999. Toujours rien d'Irvine. Et donc là, c'est la première fois qu'on a une trace de son corps.
On a une petite archive de 99, justement, qui nous rappelle cette découverte et les détails précis de cette découverte.
Ils ont découvert le corps aux environs de 8300 mètres, assis dans la neige, la moitié du buste sortant de la neige. Mallory portait toujours sa veste de tweed, ses bandes aux jambes, et il était encordé avec la corde attachée directement autour de la taille, comme ça se faisait à l'époque. Mallory ayant peut-être assisté à la chute d'Irvine, c'est possible, la corde s'étant peut-être cassée, ça on ne le sait pas encore, se serait assis là dans la neige et n'aurait plus pu bouger. On a eu des témoignages d'alpinistes ayant par exemple gravi l'Everest avec oxygène, s'étant retrouvé à court d'oxygène au cours de la descente et ne pouvant littéralement plus bouger à cause de la raréfaction de l'air qui soudain les empêchait de faire quelconque mouvement. Donc c'est peut-être ce qui est arrivé à Mallory, l'épuisement l'ayant empêché de rejoindre le camp qui n'était finalement pas très loin puisqu'il était à 8200 mètres, le camp qui l'aurait sauvé.
Ce qu'on ne sait pas ce soir, c'est s'il est parvenu à gravir l'Everest et s'il est mort par la suite. Edmond Hillary, qui lui a gravi l'Everest le premier en 1953, est vraiment intéressé à connaître les résultats de cette enquête. On pense qu'il y a peut-être un appareil photo quelque part dans la glace et quelque part une photo figée de l'homme éventuellement au sommet de l'Everest. Affaire à suivre.
Voilà Mathieu Novak, affaire à suivre. On était en 1999 dans Intersoir. Alors c'est ça la beauté de ces hautes altitudes, c'est que ça fige finalement le drame et la tragédie de cet alpinisme de l'extrême. Racontez-nous ces questions que pose à nouveau cette découverte du pied d'Irvine.
Cette archive, elle est absolument passionnante parce qu'il y a plein de choses. Irvine, on n'a pas retrouvé son corps. Mais Mallory, donc justement, comme on l'entend dans l'archive, on l'a retrouvé et on a pu l'analyser. C'est-à-dire, la première chose qu'on regarde, c'est dans quelle position il est. Et on voit qu'il a les bras levés, comme s'il avait voulu ralentir une chute. Première observation. Après, on a fait des analyses, il y avait des traces de sang. On a fait plusieurs analyses, on y est retourné. Le corps, il est toujours là-haut. On y est retourné, on a vu et on a réussi à comprendre, par des histoires de comment le sang se fiche, qu'il a dû sans doute se blesser une première fois avant la chute et qu'il s'est recoupé pendant la chute. Donc, il est sans doute tombé. Ça, c'est sûr. Après, il y a d'autres choses. On est retourné voir ce corps. Il y a des choses qui sont très troublantes. Mallory, c'était Monsieur Everest à l'époque. Hein. Il y allait pour la troisième fois. Il avait déjà reconnu une fois en 1921, une fois en 1922. Donc lui, c'était vraiment, c'est de lui que tout le public attendait qu'il y aille. Et il est parti avec des lettres d'amour enflammées avec son épouse et une photo. Et il lui avait dit, si j'arrive là-haut, je laisse ta photo en haut de l'Everest. Et maintenant, son corps, on lui a fait les poches. On a retrouvé les lettres. On n'a pas retrouvé la photo.
Donc ça veut dire que peut-être qu'ils ont atteint.
Peut-être.
Qu'ils ont atteint ce sommet.
Et Irvine, alors là où ça relance aussi les choses, c'est que donc le corps de Mallory, on l'a retrouvé à 8300 mètres, pas d'Irvine autour, et la chaussure. Alors nos confrères de National Geographic sont généralement avares en détails avant d'avoir publié, donc on a du mal à avoir des infos, mais on l'a retrouvé beaucoup plus bas, c'est plutôt 5700 mètres. Donc pourquoi est-ce que des gens ont essayé de le descendre? Est-ce qu'il y a eu des avalanches? Est-ce qu'il a été déplacé par des animaux? Est-ce qu'il y a eu des éboulements? Bon, on sait pas. Donc bon, pour le moment, on sait pas le trouver, mais pourquoi ça serait très intéressant de le trouver, c'est justement, et on l'entend aussi dans l'archive, c'est que dans cette expédition qui a été d'un point de vue technologique assez original, il y avait un type qui filmait, mais Irvine lui-même est parti avec un appareil photo. Et si on retrouve son corps, on a des bonnes chances de retrouver l'appareil photo avec un vieux Kodak. Et les experts disent que la pellicule argentique de l'époque, vu les conditions là-bas de température, d'humidité, il y a des bonnes chances qu'on puisse la développer et avoir quelque chose.
Ça me fait un peu penser à ce manga Sommet des Dieux où il est question justement d'un appareil photo légendaire comme ça qu'on traque sur les flancs de l'Everest. Alors c'est à la fois l'histoire de l'ascension de l'Everest que nous raconte ce pied retrouvé d'Irvine sur le flanc de la montagne, mais c'est aussi l'actualité de cette fonte des neiges sur l'Everest qui révèle, Mathieu Novak, d'autres cadavres, eux, beaucoup plus récents et souvent en nombre assez important.
Ah oui, ça c'est quelque chose, que ce soit sur l'Everest ou sur d'autres montagnes, effectivement c'est quelque chose qui est assez triste, mais il y a énormément d'accidents et c'est tellement compliqué de monter que si on meurt là-haut, on reste là-haut. On ne fait pas une expédition pour descendre des corps. Et donc là, pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet, c'est assez glauque, hein, mais vous pouvez aller voir sur Internet, il y a des corps qui servent de repères maintenant. On sait qu'en fait, quand ils ouvrent les voies, parce que les voies sont pas ouvertes toute l'année, il faut que c'est seulement à la belle saison, il y a des corps qui réapparaissent, alors avec des combinaisons orange, fluo, jaune, fluo, des années 80, et des pieds qui disparaissent. Il y en a un mec qui s'appelle le gars à la chaussure verte, parce qu'il y a sa chaussure qui dépasse. Et ça devient un repère. Donc c'est assez épouvantable. Alors c'est vrai que la fonte des glaces, avec toute la tragédie qui va avec, par contre, d'un point de vue archéologique, ça va nous, de l'archéologie très ancienne ou récente, ça va nous livrer pas mal de choses.
Alors ça nous pose bien sûr la question de ce tourisme de masse sur les très hauts sommets, mais si on revient à cette époque un peu plus glorieuse des premières ascensions entre Irvine, Mallory et la première véritable ascension de l'Everest, attestée du moins, il se passe à peu près une trentaine d'années. C'est est-ce ça, que d'autres personnes s'y risquent ou bien est-ce que cet exemple de Mallory et d'Irvine a refroidi
ça a marqué les esprits. Hein. A priori, c'était l'expédition qui devait réussir. Ils étaient extrêmement préparés. Ils sont partis. Alors c'est long une expédition comme ça. Quand il s'est arrivé sur le camp de base, c'était fin avril. Et là, il est parti début juin. Donc en fait, le camp de base c'est 5100 mètres. Et donc le dernier c'est 8006. Donc ils sont restés un mois pour juste faire aller de camp en camp. Ils avaient une technique qui était très très rodée, c'est-à-dire que ils montaient des vivres, des équipements vers le camp du dessus et ils redescendaient pour s'acclimater. Une fois qu'ils étaient bien, ils remontaient un coup. Mais c'était extrêmement périlleux. Alors le premier camp de base, 5100, le médecin de bord fait des prises de sang, regarde les taux d'hémoglobine, tout va très bien. Donc tout le monde est ravi. Mais quand ils arrivent à 6005, la plupart des Sherpas eux-mêmes commencent à déclarer forfait. Des nausées, des gelures, des étourdissements. Et du coup, c'est les alpinistes qui ont dû eux-mêmes acheminer le matériel. Alors c'est exactement ce que Bruce et Norton, les deux chefs d'expédition, ne voulaient pas faire, c'est-à-dire épuiser les alpinistes, apporter le matériel. Mais après, ils avaient quand même l'organisation parfaite. Et ils arrivent à 7000, et là, il y a encore 4 Sherpas qui, avec des gelures, il y a un paquet de bouffe qui dévale la pente, ils ont plus de quoi manger, donc a priori, l'organisation était parfaite, mais ils ont dû, avec ces péripéties, repousser, jusqu'à ce qu'ils disent, dernière tentative, et celle de Mallory et Irvine était la dernière, et ça m'a marqué les esprits que Mallory ne descende jamais parce que c'était vraiment Irvine à la guerre c'était un jeune gars Mallory c'était un ancien de la première guerre qui était déjà allé 3 fois sur l'Everest. Alors Irvine lui c'était un jeune qui avait été repéré comme dans une préparation sportive dans l'archipel de Svalbard. On a dit viens avec nous, lui c'était sa première tentative. Il avait un rôle clé dont on entendait un petit peu parler dans l'archive, c'est que c'était les premiers à monter avec des bouteilles d'oxygène. Alors Irvine c'est un personnage absolument génial parce que c'est un très grand sportif mais c'est un très grand bricoleur aussi. Alors, tout. Alors, il a râlé qu'il avait réussi à tout réparer dans l'expédition, sauf son couteau. Mais ce qui était génial, alors pour donner un exemple, c'est un bon anglais qui voulait boire du thé sur l'Everest. Alors, peut-être que tout le monde n'est pas familier avec les histoires de pression atmosphérique, mais plus vous montez, plus la pression baisse. Plus la pression baisse, plus l'eau bout à une faible température. Eh ben, vous pouvez pas faire bouillir de l'eau à 100 degrés sur l'Everest. C'est pas possible. Donc, le thé, il était pas assez chaud pour Irvine. Qu'est-ce qu'il a fait avant de partir? Il a bricolé une bouilloire, genre cocotte minute, pour faire augmenter la pression dans la bouilloire pour pouvoir boire du thé sur l'Everest. Bon, ça, c'est pour l'anecdote, mais surtout, ce qui était important, c'est que il était le gars qui maîtrisait les bouteilles d'oxygène. Et c'était la première fois qu'on montait. Alors, c'était quand même des gros trucs, hein. C'était 13 kilos à avoir dans le dos. Et la première tentative, c'était du chef d'expédition Norton et du Toubib Sommerveld. Ils sont partis sans parce qu'ils ont dit c'est trop lourd. Eux, ils sont partis avec. Donc, ils ont des bonnes chances grâce à ça d'avoir atteint, peut-être. Et comme on l'a entendu dans l'archive, ben, peut-être qu'à la descente, ils en avaient plus de cet oxygène. Et c'est ça qui a créé,
les a tués.
C'est ça qui les a tués.
On peut lire le dernier message de George Mallory qui l'envoie le jour de l'ascension à son camp de base. Il dit « Il ne sera pas trop tôt pour commencer à nous guetter aux alentours de 8 heures demain sur l'arête. » Et paf.
Et paf. Et pareil, dans le journal de bord d'Andrew Irvine, page 98, j'ai préparé deux appareils à oxygène pour notre dernière tentative de demain.
Merci beaucoup Mathieu Novak d'être venu nous raconter cette ascension tragique de l'Everest. Merci à tous les quatre d'être venus aujourd'hui nous parler de l'actualité scientifique dans ce qu'elle a de plus vivante. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver un autre as de l'actualité scientifique, Alexandre Morales, qui s'en vient avec sa chronique Avec Science.
Comment produire des anticorps pour moins cher? Vous savez probablement que notre corps produit des anticorps. On en parle souvent comme des gendarmes biologiques qui montent la garde et s'attaquent aux substances et aux corps étrangers qui pénètrent l'enceinte de notre organisme. Et pour que ce système de défense soit très efficace, nous produisons naturellement plusieurs milliards d'anticorps différents, avec chacun ses spécificités. Les biologistes peuvent ensuite isoler certains anticorps d'intérêt et les utiliser dans leurs recherches fondamentales, mais aussi en thérapie. Ils sont capables de se fixer spécifiquement sur certaines cibles moléculaires et c'est très utile, en oncologie notamment, puisqu'on peut ainsi viser très précisément des cellules cancéreuses ou transporter des médicaments dans des cellules bien identifiées. Il y a aujourd'hui une trentaine d'anticorps sur le marché, c'est donc un outil thérapeutique absolument incontournable. Néanmoins, les anticorps sont des molécules très complexes et leur fabrication, bien que très optimisée, est difficile et coûte relativement cher. Alors, les scientifiques recherchent des moyens plus efficaces pour produire ce type de molécules. Nicolas Winsinger est professeur de chimie et chimie organique à l'Université de Genève. Il est le dernier auteur de cette publication parue dans la revue PNAS.
Clairement, ce qui nous a inspiré, c'est les anticorps. Les anticorps ont des propriétés qui sont absolument extraordinaires. La sélectivité et la force avec laquelle ils interagissent avec leur cible, ce qu'on appelle l'affinité, est vraiment impressionnante. Mais elles sont très grandes, très complexes. En fait, la taille peut vraiment être un souci aussi pour les anticorps. C'est un des soucis dans les traitements en oncologie. Ils sont tellement grands qu'ils pénètrent mal à l'intérieur d'une tumeur solide. Ils ont du mal à se diffuser entre les cellules pour arriver à l'intérieur de la tumeur. Et cette limitation inspire depuis des décennies la recherche d'autres protéines qui pourraient avoir une affinité comparable à un anticorps, mais qui est structurellement plus simple. Et c'est vraiment dans le fil de cette pensée qu'on s'est intéressé à des protéines et un motif structurel qu'on pensait être capable de reconstruire par auto-assemblage de petits fragments de peptides.
Avec son équipe, ils sont parvenus à produire ce qu'on appelle des SAP pour protéomimétiques auto-assemblés. En fait, pour simplifier le processus, ils ont reproduit des anticorps en retirant la partie qui n'interagit pas avec la molécule ciblée. Ils ont donc pris deux petites protéines, des peptides, qu'ils ont attachées ensemble avec des acides nucléiques, le même type de molécule que celle qui forme l'ADN. Tous ces composants s'assemblent d'eux-mêmes et forment le SAP. Mais cet anticorps simplifié fonctionne-t-il aussi bien qu'un anticorps classique? Pour s'en assurer, les chercheurs l'ont testé sur deux cibles moléculaires. La première, c'est le récepteur HER2 qui est surexprimé dans les cellules de beaucoup de cancers du sein. Et la seconde, c'est la fameuse protéine spike du SARS-CoV-2 dont on a beaucoup entendu parler pendant la pandémie. Vous savez, c'était la clé qui permet au virus de pénétrer dans nos cellules. Dans ces deux tests, les SAP se sont montrés extrêmement efficaces, autant que les anticorps thérapeutiques qui sont actuellement sur le marché.
Ce sont des produits de synthèse, c'est quelque chose qui est facile à exécuter en laboratoire et industriellement. Et simplement, peut-être comme exemple parlant, si certains de vos auditeurs n'ont pas entendu parler du traitement par anticorps pour la SARS-CoV-2, c'est en effet parce que la production de ces anticorps était limitante et il y en avait tout simplement pas assez pour traiter tous les patients. C'est aussi un traitement qui coûte relativement cher, c'est presque 1000 fois plus cher que le vaccin. Maintenant, on n'a pas encore produit nos SAP à une échelle industrielle, mais de la synthèse de peptides pour cette longueur-là est quelque chose de très bien établi dans l'industrie pharmaceutique. Je suis sûr que de nombreux de vos auditeurs auront entendu parler des nouveaux médicaments qui sont utilisés pour traiter l'obésité ou gérer le surpoids. Le sémiglutide, c'est un peptide qui a 38 acides aminés, donc qui est plus grand que nos SAP.
L'idée derrière tout ça, c'est bien sûr d'en faire un outil thérapeutique qui cible efficacement les molécules pathogènes à moindre coût. Et ce qui est encore plus intéressant dans cette création, c'est qu'il existe un antidote au SAP. Ça veut dire que l'on peut administrer le médicament à un patient, le laisser faire effet et donner ensuite le remède pour éteindre le médicament et éviter ses effets indésirables. Ce serait très utile pour les anticoagulants par exemple, ou encore les anticancéreux bien sûr.
Merci beaucoup Alexandre Morales, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Natacha Triou, Noémie Naguette Saint-Villefranc, Lou Anget, Ali Ruyère-Thompson, Eve Etienne, Loïc Dutoit, Bruno Sansini, Noémie Eliazor, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Alex Dang. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans la Science CQFD et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.